VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 7 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nanit Kalani.
Sans tarder, la CAN et la victoire du Sénégal.
Le Sénégal trône sur le toit du football africain et a désormais une étoile floquée sur son maillot, synonyme de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le premier titre du genre en 16 participations. L'équipe de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Issa Ganagay a battu l'Égypte de Mohamed Salah hier en finale lors de la séance des tirs au but 4-2. Pour revivre ce moment historique pour le football sénégalais, au stade d'Olembe et aux alentours, théâtre des événements d'hier, nous retrouvons à Yaoundé Emmanuel Juntap pour le journal de la CAN.
La joie des supporters sénégalais au stade d'Olembe, après que Sadio Mané a transformé le pénalty victorieux des Lions de la Teranga lors de la finale face à l'Égypte. Le Sénégal a décroché son premier titre en Coupe d'Afrique des Nations de football en s'imposant devant la sélection la plus titrée d'Afrique au bout d'une séance de tir au but. C'était hier au stade d'Olembe à Yaoundé, sous le regard d'Amédine Sy qui revient sur ce sable.
La troisième a été la bonne pour le Sénégal après deux échecs en 2002 à Bamako et en 2019 sur les bords de l'île. Les Lions du Sénégal ont remporté au tir au but cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, 4-2. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0-0. La première de l'histoire pour le Sénégal, comme un symbole, c'est Sadio Mané qui a inscrit le penalty décisif, alors que Edouard Mendy a été décisif avec un arrêt lors de cette séance fatidique de la série de tirs au but. L'Égypte de Mohamed Salah ne remportera donc pas une 8e CAN dans son histoire. Comme souvent, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu dans cette finale, malgré une large possession pour les joueurs de Aliou Cissé, mais ils n'ont pas réussi à déséquilibrer le bloc égyptien et les rares fois où ils ont pu s'approcher du but adverse, ils ont tombé sur un excellent Gabassi. Le gardien égyptien a été d'ailleurs élu homme du match. Il a détourné un penalty de Sadio Mané, c'était à la 13e minute. En face, les pharaons se sont montrés dangereux uniquement sur les coups de pied arrêtés. En confiance, après trois qualifications consécutives dans cet exercice, l'Égypte est finalement tombée sur des échecs de Mohamed Abdelmohamed et Mohamed Lassène. Le Sénégal, pour sa part, a bien négocié cette série de tirs au but pour s'offrir la première Coupe d'Afrique de son histoire. C'était Amédine Sy depuis Yaoundé pour la VOA Afrique.
C'est un Aliou Cissé aux anges qui s'est présenté en conférence de presse d'après-match. Ses premiers mots recueillis par Amédine Sy.
Champion d'Afrique. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière ces premières étoiles. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi.
Il y a 20 ans, Aliou Cissé, alors capitaine des Lions de la Teranga, perdait une finale de la CAN au tir au but face au Cameroun. 20 ans après, c'est en terre camerounaise que le Sénégal, conduit par Aliou Cissé cette fois, comme entraîneur, obtient son premier trophée de la CAN. Pour l'entraîneur sénégalais, cela est un symbole parmi tant d'autres.
Le Cameroun est une terre de football. Gagner la CAN ici au Cameroun, c'est un symbole. Mais le gagner face à l'Égypte, qui est aujourd'hui, je crois, qui a gagné cette CAN, ça aussi c'est un autre symbole. C'est ce que je disais à mes joueurs. Donc aujourd'hui, ils ont écrit l'histoire en gagnant l'équipe la plus titrée d'Afrique.
Eh bien, cette belle ambiance qui a interrompu la conférence de presse d'Aliou Cissé est à mettre à l'actif des joueurs sénégalais venus célébrer leur entraîneur. Et il n'y avait pas que les Sénégalais joyeux du sacre d'hier. De nombreux Camerounais à Yaoundé ont poussé le Sénégal à la victoire et ont explosé après le pénalty transformé par l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané. Voici quelques réactions des Camerounais.
Le Sénégal a rendu toute l'Afrique heureuse, le Cameroun en particulier.
Et parce que le Sénégal remporte une coupe, ils se souviendront que c'était au Cameroun. Bravo Sénégal.
L'Égypte est passée à côté de son 8e titre de champion d'Afrique. Les Pharaons ont disputé 4 matchs de prolongation d'affilée. Dia Al-Sayed, entraîneur adjoint de l'Égypte, pense que ses poulains ont accusé un coup de fatigue.
La rencontre a été très longue. Nos joueurs étaient vraiment fatigués. C'est le 4e match de 120 minutes que nous jouions. Nous remercions les joueurs pour la performance qu'ils ont livrée et nous félicitons en même temps le Sénégal qui a remporté la compétition. L'Égypte n'a pas pu gagner. Et nous nous en excusons auprès de la population égyptienne.
Le Cameroun termine sur la 3e marche du podium avec une médaille en bronze remportée de haute lutte samedi face au Burkina Faso. Alors qu'elle menait au score par 3-0, la formation burkinabé a sombré durant les 20 dernières minutes. Le Cameroun va revenir au score avant de s'imposer au tir au but par 5-3. Au chapitre des récompenses individuelles, l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar est meilleur buteur du tournoi grâce à ses 8 réalisations. Édouard Mendy est le meilleur gardien de but de la compétition, tandis que le Sénégalais Sadio Mané a été sacré meilleur joueur du tournoi malgré son pénalty raté en début de match. Écoutons la réaction de Sadio Mané au micro d'Amédine Sy.
Je suis quelqu'un de très positif, vous savez. Je pense que même après avoir raté le pénalty, je n'ai pas douté. Et heureusement, il y avait tous mes coéquipiers qui étaient là aujourd'hui. M'ont soutenu, ils m'ont dit que Sadio, t'inquiète, ça va passer, tu as raté un pénalty, on est ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. C'est le mental qui a fait la différence ce soir.
À l'heure du bilan, il n'y a pas que le sacre du Sénégal, il y a également d'autres succès sur lesquels s'attarde le dernier coup de sifflet du journal de la CAN avec Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. Jusqu'au bout, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas ménagé les cardiaques avec son lot d'émotions. Ce n'est pas le dernier sprint de la petite et de la grande finale qui le démentira. Déjà samedi, le match de classement entre le Cameroun et le Burkina Faso a fait passer les supporters par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec sa pléthore de buts et la remontada exceptionnelle d'un Cameroun mené 3-0, mais qui a réussi à chipper la médaille de bronze aux étalons au tir au but. Dimanche, c'est aussi au bout de la nuit que le Sénégal arrive enfin à décrocher le Graal devant une courageuse équipe d'Égypte usée par une 3e prolongation d'affilée. Alors, gloire au Sénégal, le nouveau champion d'Afrique, qui met fin à une anomalie persistante. Nous ne pouvons clore ce bilan sans louer les efforts exceptionnels du Cameroun en matière d'infrastructure, de logistique, d'organisation, de qualité d'accueil et de réussite au niveau de la sécurité, ainsi que de l'impact économique qui font passer la CAN à un palier supérieur difficile à égaler. Sur le plan strictement sportif, les petits ont sonné la révolte, les gros sont montés en puissance, le finish a été éblouissant, et le buteur Vincent Aboubakar a fait trembler le vieux record de Ndaye Moulamba. La fête a été belle. Alors, merci pour tout. Merci à tous et à la prochaine envolée.
Les joueurs sénégalais, champions d'Afrique et heureux dans les couloirs du stade de Limbé en attendant la prochaine CAN prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Tout heureux aussi de votre fidélité au journal de la CAN qui s'achève. Au générique de cette dernière édition, Amédine Sy, Kader Traoré Mamadou et Jules Valentin Ngoué. Merci également à toute l'équipe de la production et de la rédaction centrale à Washington DC. Je suis Emmanuel Jolutap, ici à Yaoundé, VOA Afrique.
Merci Emmanuel.
Nous sommes vraiment contents. Dieu est avec les Andurans. Les Égyptiens pensaient qu'en allant au tir au but, ils allaient nous gagner, mais je les ai rejoints.
Dakar en liesse, la capitale sénégalaise a explosé de joie dimanche soir après le coup de sifflet clôturant la finale de la CAN. Ce sera en seconde partie avec notre correspondant sur place, Sedina Abagay.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a créé par décret ce week-end la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. C'est cette commission qui doit élaborer la charte de la transition et déterminer la durée de la dite transition. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La commission qui a été mise en place est composée d'une quinzaine de personnes issues de divers domaines. Des juristes tels Ousseni Ili, des anciens chercheurs comme Théodore Ouba ou des journalistes comme Abdoulaye Bari. La commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition devra proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus au sein de la société. Elle doit pouvoir élaborer une proposition de charte de la transition indiquant les principes, les organes, les objectifs, les orientations stratégiques et les modalités concrètes de conduite de la transition, selon les décrets. Toujours selon le décret pris ce week-end, la commission doit proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. Le décret précise que la commission est indépendante et travaille à l'abri des pressions et manœuvres contraires à l'intérêt général. La mission de la commission est sous-tendue par un esprit patriotique et un dévouement absolu à la nation. Les membres de la commission travaillent à titre bénévole et ne reçoivent aucune rétribution liée à leur participation aux travaux, a rassuré le décret pris par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les dirigeants africains ont condamné sans équivoque hier dimanche la récente vague de coups d'État sur le continent. C'était lors du sommet annuel de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les discussions sur l'accréditation controversée d'Israël à l'organisation ont été en revanche reportées. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Les coups d'État qui ont secoué le continent durant l'année écoulée, le dernier au Burkina Faso il y a 2 semaines, était un des sujets incontournables de l'agenda chargé de ce sommet. L'Union africaine ne tolérera aucun coup d'État militaire sous quelque forme que ce soit, a déclaré le responsable du Conseil de paix et de sécurité, soulignant qu'à aucun moment dans l'histoire de l'Union africaine, nous n'avons eu 4 pays suspendus en 12 mois, le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso. L'Union africaine a en revanche choisi de ne pas afficher ses dissensions sur le sujet sensible de l'accréditation d'Israël, une décision prise en juillet par le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, et qui divise l'organisation. Plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont indignés, estimant que ce choix allait à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Un comité va être créé pour étudier la question. Il comprendra l'Afrique du Sud et l'Algérie, mais aussi le Rwanda et la RDC qui soutiennent la décision de M. Faki, ainsi que le Cameroun et le Nigeria, selon les diplomates interrogés.
Le président tunisien Kais Saied a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature qu'il accuse de partialité et de corruption. Le Conseil supérieur de la magistrature appartient au passé, a déclaré M. Saied dans une vidéo diffusée dans la nuit dénonçant une instance assisée corrompue qui aurait ralenti notamment les enquêtes sur les assassinats en 2013 de 2 militants de gauche. Les postes et les nominations se vendent et se font selon les appartenances au sein du Conseil, a accusé le président.
Une vague d'émotion au Maroc et dans le monde entier a accompagné la mort tragique du petit Ryan, coincé pendant 5 jours au fond d'un puits dans le nord du Maroc. C'est le cabinet royal qui a annoncé samedi soir le décès de l'enfant. Le roi Mohamed VI a appelé les parents de Ryan pour présenter ses condoléances.
Le président français Emmanuel Macron reçut par Vladimir Poutine à Moscou, le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington pour rencontrer le président Joe Biden. Un intense ballet diplomatique s'ouvre ce lundi pour tenter de désamorcer la crise autour de l'Ukraine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme promis, nous allons à Dakar, au Sénégal, pour y retrouver notre correspondant Sedina Abagay, témoin de l'explosion de joie dans la capitale sénégalaise après le coup de sifflet clôturant la finale de la CAN remportée par les Lions de la Teranga.
Et la longue attente de la séance de Djibouti a laissé place à des scènes de liesse indescriptibles dans la capitale sénégalaise. La joie et la fierté sont les sentiments qui ont le plus animé les fervents supporters des Lions de la Teranga.
Nous sommes vraiment contents. Dieu est avec les Andurans. Les Égyptiens pensaient qu'en allant au Djibouti, ils allaient nous gagner, mais je les ai rejoints.
On est juste ému. On nous apprêtait à prendre la coupe et on l'a fait. On est trop contents aujourd'hui. Rien du tout. Ils ont fait un excellent boulot. C'est ce qu'on venait et ils l'ont ramené. Merci à vous.
Depuis la délivrance pour les fans de football, mais aussi pour tous les autres citoyens qui attendent avec impatience le retour des Lions de la Teranga.
Pas les mots, sincèrement, je n'ai pas les mots. Les sentiments qui manifestent en ce moment, pas les discipliner. Seulement Alhamdulillah, et que tout se passe bien, et qu'on fait ça comme il se doit, Inch'Allah. On les attend demain à l'aéroport. Il y avait trop de pression. À vrai dire, je n'ai pas regardé le match en entier. Je n'ai vu que des séquences parfaites. La pression était trop forte pour moi. Donc j'ai dû attendre jusqu'au Turobi pour venir regarder le match.
Grâce à Sadio Mané, Flanchi, Maïnonio, victoire. Et je vous remercie le président de la République. Parce qu'il avait dit qu'on ne veut pas de finale, on veut la trophée. C'est ce qu'on a réalisé. On est dans les joueurs, Inch'Allah. Demain, on veut que le président décrète à partir d'aujourd'hui, le 6 février, comme jour de férié.
Depuis Addis Abeba en Éthiopie, où il a été intronisé président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Macky Sall a adressé ses félicitations aux Lions et annoncé le report de sa visite officielle aux Comores. Le président Sall tient à accueillir et décorer l'équipe nationale de football ce lundi 7 janvier 2022, une journée qu'il a décrétée fériée, chômée et payée en l'honneur des nouveaux champions d'Afrique. Sedina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
C'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La crise entre Bamako et Paris a été marquée récemment par l'expulsion de l'ambassadeur de la France au Mali. Quel impact sur la diaspora malienne vivant en France? Ils sont en effet nombreux, très nombreux ces Maliens qui vivent dans ce pays. Un reportage d'Issa Bakary Patili.
Depuis l'annonce de la fermeture des frontières entre le Mali et les pays de la CEDEAO, la France a à son tour suspendu les vols Bamako au Paris. Les Maliens qui veulent venir au pays ont beaucoup de difficultés. Voyages de plus en plus longs, coûts élevés. Ce qui constitue des frais supplémentaires. Lamine Diawara vit en France depuis plus de 20 ans. Il raconte.
Oui, effectivement, c'est un coût supplémentaire, c'est un handicap le fait que quelles que soient les difficultés, le Malien est prêt à se sacrifier pour se rendre à son pays, aller voir ses parents, ses frères et sœurs, quel que soit le coût. Oui, ça causait un handicap. Effectivement, personne ne peut le nier.
Haruna Sega Kebe est conscient de la longueur du trajet. S'il s'agit du pays, aucun sacrifice n'est de trop.
Je ne connais pas les autres, mais moi personnellement, si les Français ne partent pas là, ça ne me dérange pas de faire deux jours, de faire des voyages entre Bamako et en France, ça ne me dérange pas. Par rapport au situation qu'on a aujourd'hui.
Pour ce qui est de l'envoi des fonds vers le pays, nous n'avons aucune difficulté. Lamine Diawara.
Nous pouvons jusqu'ici envoyer de l'argent en Afrique, sans problème. Nous payons de l'argent pour pouvoir envoyer de l'argent en Afrique à nos parents, à nos frères et nos sœurs. Donc nous payons déjà de l'argent pour pouvoir envoyer de l'argent. La France a son bénéfice dedans. On n'a pas de problème dans ce domaine pour l'instant.
Pour d'autres, cette crise n'engendre aucune conséquence. Boubacar Diarra.
Il faut anticiper
Et ça nous arrange beaucoup quand il n'y a pas d'Air France entre Malé et Bamako, parce que ça nous coûte cher beaucoup. Et les billets sont chers, et non seulement, il y a les foutaises. Il n'y a aucune conséquence.
Nous ne sommes pas les seuls à être impactés par cette crise. Brahima Baradji.
Nous, on peut souffrir. On peut emprunter d'autres avions, même s'il faut faire le tour du monde pour arriver chez soi. L'avion arrêté, c'est la France qui va ramasser la peau cassée. Ça, nous, ça nous fait mal. Bon, ça fait mal à l'économie. Ce qu'on gagne, on sait.
Il est temps que nous ayons notre propre compagnie, Brahima Baradji.
L'autorité malienne d'avoir un avion pour le Mali, ou deux, ou trois, quatre avions qui s'appellent Air Mali. On va l'entretenir. Il faut qu'on trouve notre avion à nos noms.
Il faut rappeler que la diaspora malienne vivant en France a un apport considérable dans l'économie nationale, voire locale. Issa Bakary Bacheli, Kay, pour la Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Tchad, interdiction par le gouvernement, selon les organisateurs, de la formation en leadership et entrepreneuriat 4e édition, initiée par la génération ABCD, une ONG de droit légalement reconnue. Cette formation était prévue pour le week-end dans un grand hôtel de N'Djamena et le service de sécurité a empêché quelques 800 jeunes venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays d'y accéder. L'opposant, le docteur Succès Masra, devait intervenir dans cette formation, nous dit notre correspondant sur place, André Kotmajingar.
Les éléments du service de sécurité ont ordonné simplement aux organisateurs et quelques participants se trouvant dans la salle vendredi de vider le lieu. Les gardes ont affirmé avoir reçu des instructions de ne pas laisser cette formation tenir sans donner trop de détails. Pour certains, c'est la junte militaire qui a interdit cette formation à cause de l'opposant Dr Succès Masra, qui est aussi ancien économiste principal à la BAD. Dr Succès Masra a réagi.
C'était une formation totalement apolitique. Depuis 2013, c'est plus de 10 000 jeunes que nous avons formé comme ça. Et à la sortie, certains bénéficient des prix, 1 million, 1 500 000, 500 000, qui leur permettent de créer des entreprises pour s'occuper d'eux. Il y avait parmi eux des gens qui venaient même de l'extérieur du pays ou de l'intérieur du Tchad. L'entreprise n'a pas de parti politique, n'a pas de religion, n'a pas de genre.
Plusieurs étudiants tchadiens sont venus du Cameroun voisin pour participer à cette formation. Ils réagissent au micro de VOA Afrique.
C'est pour moi un sentiment à la fois de désolation, de tristesse et de honte surtout. Comment comprendre qu'une formation lancée à l'endroit de la jeunesse pour permettre à la jeunesse de créer la richesse qui d'ailleurs aidera le pays plus tard puisse être interdite. Si le gouvernement veut une jeunesse qui ose, elle doit laisser cette jeunesse apprendre à se prendre elle-même en charge.
Aujourd'hui, compétence que ce docteur en économie, Masra Succès, a, est cherchée partout, Sorbonne, Oxford, dans certaines universités que nous connaissons. Alors qu'ailleurs, au Cameroun, là où moi j'ai étudié, il y a des professeurs qui ont leur parti politique, qui interviennent à l'université et qui organisent des activités librement. Touadéra, étant opposant, même il enseignait la mathématique à l'université, à Bangui. Jusqu'à aujourd'hui, même il est président, il continue à enseigner. Mais pourquoi interdire à Masra? Moi, je suis en colère. J'ai effectué le déplacement pour venir me faire former. Le développement des pays passe par l'éducation. Et ces gens-là, ils ne veulent pas le développement de ces pays-là.
Pour le ministre de la Communication, le gouvernement n'est pas au courant de ce malentendu entre ce jeune et le service de sécurité, Abdraman Koulamala.
Moi, personnellement, en tant que porte-parole, je ne suis pas informé. Je me tiens à la disposition de ces jeunes pour trouver rapidement un accord pour qu'ils puissent faire leur formation. C'est scandaleux d'empêcher les gens de s'exprimer, et surtout quand il s'agit d'une formation. On ne pense pas que c'est à cause d'un leader politique. Les gens sont des Tchadiens. Je ne vois pas en quoi le gouvernement est concerné par ça.
Pour l'économiste Dr Succès Masra, la seule évocation de son nom fait peur à certains.
Mes formations en leadership, en entrepreneuriat font peur aux gens. J'ai demandé à enseigner gratuitement à l'école normale d'administration. Ils ont refusé. J'ai demandé à enseigner gratuitement à l'université du Tchad. Ils ont refusé. J'ai envoyé pour enseigner dans les universités privées gratuitement pour mettre mon temps au service. Ils ont mis des pressions sur ces gens pour qu'ils ne répondent pas.
Le sujet a fait la une des médias nationaux et sur les réseaux sociaux ce week-end. Mais aucun responsable de la police ni de l'hôtel n'a donné les vraies raisons de ce malentendu. André Kordomadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, le droit de succession fait l'objet d'une campagne de vulgarisation à Libreville, la capitale. Adopté en septembre dernier par le Parlement, le texte est salué par les mouvements féministes comme une avancée dans la protection des veuves et des orphelins. La nouvelle réforme supprime le conseil de famille et fait place désormais au conseil successoral. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Ça faisait 20 ans que je vivais avec mon mari. J'ai fait avec lui 4 gosses, 4 filles.
Dans une série de vidéos compilées par une cellule d'accueil et d'écoute pour les conjoints survivants, Nadine Guéma, une veuve de 48 ans, livre un témoignage glaçant sur le sort qu'elle a subi à la mort de son mari.
Les soeurs, les frères sont venus pour nous injurier. Parler maintenant du vampire. Ils m'ont insulté, ils ont insulté ma famille. On montait déjà pour venir à Libreville. C'est là où ils ont commencé à nous maudire encore. Le terrain à mon nom, je ne vois pas comment ils vont venir discuter le terrain là. Ils sont restés enterrer leurs frères comme ils ont voulu. Je ne sais pas là où on a enterré mon mari. C'est vraiment triste.
Triste, il n'y a pas de mot juste pour qualifier le drame de plusieurs femmes comme Nadine. Au Gabon, près de 47% des veuves sont victimes de maltraitance et de spoliation. Seuls 21% d'entre elles entrent dans leurs droits. Alors une journée de sensibilisation sur la succession sert à libérer la parole. Docteur Nicolas Sélé est président de l'ONG L'Appel des Mille et Une qui a initié cette rencontre dans l'une des mairies de Libreville.
Nous avons des héritiers légaux qui ont été spoliés par des oncles, par des tantes, par des... Donc aujourd'hui il est question que les uns et les autres sachent qui est héritier et qui n'est pas héritier. C'est quoi le conseil successoral qui a remplacé le conseil de famille, etc., etc.
Dans cette salle occupée de moitié par les femmes et quelques hommes, trois conférencières viennent d'exposer sur le nouveau texte qui tranche désormais le débat de la succession au Gabon. Parmi elles, Sidonie Flore Owe, magistrat hors hiérarchie.
Le législateur gabonais a pris le soin de protéger la veuve et les orphelins, ou le veuf et les orphelins, en mettant en place un mécanisme de conservation des biens avant la tenue donc du conseil successoral et la gestion même de la succession du litigieux.
Pour résoudre les conflits familiaux nés d'un difficile partage d'héritage, le droit gabonais prévoit aussi l'arbitrage d'un notaire pour départager les ayants droit à une succession. Suzanne Ogula est notaire.
Le notaire est important dans la mesure où il est un arbitre qui est censé être impartial, qui explique l'ensemble des règles de droit qui régissent les successions et qui procède aussi à la liquidation de la succession.
L'article 647 du nouveau code civil gabonais a interdit d'expulser les héritiers légaux du lieu de résidence familiale ou de commettre toute forme de violence à leur encontre. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Nani Talani. À la mise en ondes, Georges Léonard Sagno. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.